Chapitre 9e, la famille Stanhope. Voici 3 mois que le docteur Prowdy a commencé son règne, et déjà certains changements montrent l'intervention dans les affaires du diocèse d'un esprit énergique et actif. Par exemple, les ecclésiastiques absents ont reçu des avis trop précis pour être négligés. L'excellent évêque Grantly avait été trop coulant en pareille matière, et l'archidiacre n'avait jamais été porté à la sévérité à l'égard de ceux qui donnaient à leur absence une raison plausible et payaient libéralement leur remplaçant. Le docteur Wesley Stanhope était, sous ce rapport, le plus grand pécheur du diocèse. Depuis de longues années, il n'avait pas exercé un seul jour un ministère pour lequel il ne se sentait pas de goût. Il avait une stalle de chanoine, l'une des plus belles maisons du parvis et de cure considérable. Il résidait en Italie depuis 12 ans. On avait attribué son départ à une maladie de gorge, et cette maladie, quoique toujours bénigne depuis, lui avait été un prétexte pour demeurer à l'étranger et vivre dans une agréable oisiveté. Il venait d'être rappelé à Barchester, non certes brutalement, ni d'une façon péremptoire, mais par une sorte d'invitation dont il ne pouvait pas ne pas tenir compte. C'était M. Slope qui lui écrivait, sur la demande de l'évêque. D'abord, l'évêque désirait vivement s'assurer la collaboration précieuse du docteur Wesley Stanhope. Ensuite, il considérait comme un devoir strict de connaître personnellement les membres les plus distingués du clergé diocésain. Puis, l'évêque pensait que l'intérêt du docteur Stanhope exigeait impérieusement son retour dans le diocèse. Enfin, M. Slope disait qu'il régnait en ce moment parmi les hauts dignitaires de l'Église un vif mécontentement contre les ecclésiastiques absents, et que le docteur Stanhope ferait bien de se mettre à l'abri des mesures qui seraient sans doute prises contre eux dans 2 ou 3 mois. Il y avait quelque chose de si comminatoire dans cette dernière insinuation que le docteur Stanhope se décida à passer 2 ou 3 mois d'été à sa résidence de Barchester. Ses cures étaient habitées par ses vicaires, et il se sentait d'ailleurs peu propre à remplir des fonctions paroissiales dont il avait perdu l'habitude. Mais sa maison du parvis lui était ouverte, et il se croyait capable de prêcher encore un sermon dans la cathédrale. Il arriva donc à Barchester avec toute sa famille, et j'y allai présenter à mes lecteurs, elle et lui. Le trait caractéristique de la famille Stanhope était l'indifférence. Mais ce défaut de sentiment se cachait chez presque tous sous une grande amabilité. Ils étaient si prompts à obliger leurs voisins que leurs voisins ne se seraient jamais doutés que toutes ces démonstrations recouvraient la plus parfaite indifférence. Les Stanhope vous auraient visité dans vos maladies, pourvu qu'elles ne fussent pas contagieuses. Ils vous auraient apporté des oranges, des romans français. Ils vous auraient raconté le dernier scandale de la ville. Ils auraient appris votre mort ou votre rétablissement avec la même tranquillité d'esprit. Ils se conduisaient d'eux-mêmes les uns par rapport aux autres. Ils se supportaient mutuellement, et ils en avaient besoin. Mais c'était à cela que se bornait leur affection réciproque. D'ailleurs, égoïste comme ils l'étaient, ils faisaient chacun tout ce qu'il fallait pour empêcher le bien-être des autres. Ils étaient 5. Le docteur, Mrs. Stanhope, 2 filles et 1 fils. Le docteur était peut-être le moins bizarre et le plus estimable de tous, et pourtant ses bonnes qualités étaient plutôt négatives. C'était un homme pléthorique, de bon air, âgé d'environ 60 ans. Ses cheveux abondants, blancs comme la neige, ressemblaient à la plus fine laine. Ses favoris blancs, larges et longs, le faisaient ressembler à un bon vieux lion endormi. Sa mise était toujours irréprochable. Quoiqu'il eût vécu longtemps en Italie, ses vêtements étaient toujours de la teinte foncée qui convient à un ecclésiastique. Il parlait peu, mais il parlait bien. Il ne lisait guère que des romans et des poésies légères, qui n'étaient pas toujours d'une scrupuleuse moralité. C'était le type accompli du bon vivant. C'était un fin dégustateur de vin, quoiqu'il ne bût jamais avec excès, et un juge délicat en matière de cuisine. Il avait eu beaucoup à pardonner aux siens, et il avait tout pardonné excepté un dîner mal préparé. Le docteur Stanhope étant ecclésiastique, on peut supposer que ses convictions religieuses constituait la partie la plus sérieuse de son caractère. Mais il n'en était pas ainsi. Il faut croire qu'il avait des convictions religieuses, mais il cherchait rarement à les imposer, même à ses enfants. Cette réserve, chez lui, n'était pas systématique, mais elle caractérisait bien l'homme. Ce n'est pas qu'il eût résolu de ne jamais agir sur leurs sentiments, mais il était si habituellement oisif qu'il n'avait pas trouvé le temps de le faire avant qu'il fût trop tard. Aussi, ses enfants étaient-ils des membres fort indifférents de l'Église, qui faisaient à leur père de si beaux revenus. Les traits de Mrs. Stanhope étaient encore moins accusés que ceux de son mari. Le far niente de la vie italienne était à ses yeux le seul bien qu'on pût goûter sur la terre. Ses manières, son extérieur prévenaient en sa faveur. Elle avait été une beauté, et maintenant, à 55 ans, elle était encore une femme agréable. Elle était toujours mise dans la perfection. Elle ne s'habillait qu'une fois dans la journée et ne paraissait jamais qu'entre 3 et 4 heures. Mais en disant qu'elle montrait un grand goût dans sa toilette, nous avons tout dit. S'habiller était le seul objet de sa vie. Au moins ne contrariait-elle pas les projets des autres. Autrefois, les dîners de son mari lui avaient été de dures épreuves. Mais depuis 10 ou 12 ans, sa fille aînée Charlotte l'avait délivrée de ce souci. Aussi n'y avait-il guère eu de préoccupation pour elle, sauf, il faut le dire, le jour où le retour en Angleterre avait été arrêté. Dès ce moment, elle avait dû sortir de sa douce oisiveté, et à la suite des fatigues du voyage, elle avait dû faire rétrécir toutes ses robes. À cette époque, Charlotte Stanhope avait environ 35 ans, et quels que puissent être ses défauts, elle n'avait pas ceux qui sont particuliers aux vieilles filles. Elle n'avait ni la mise, ni le langage, ni l'air d'une jeune fille. Elle semblait satisfaite d'avoir son âge et n'affectait pas la grâce de la jeunesse. C'était une jolie femme. Comme homme, elle aurait fait un charmant garçon. Tout ce qui, dans la maison, n'était pas fait par les domestiques, l'était par elle. Elle donnait les ordres, payait les notes, arrêtait et renvoyait les domestiques, faisait le thé, découpait à table, en un mot, dirigeait la maison. Elle seule avait le pouvoir d'amener son père à ne pas négliger absolument le soin de sa fortune. Elle seule, jusqu'à un certain point, était capable de réprimer les excentricités de sa sœur. Elle seule empêchait la famille de se discréditer et de tomber dans la mendicité. C'était par son avis qu'ils se trouvaient à ce moment tous réinstallés, contre leur gré, à Barchester. On ne peut donc nier chez Charlotte Stanhope un certain mérite. Mais il faut dire que cette influence, dont elle avait usé pour le bien matériel des siens, elle ne l'avait pas fait servir à leur bien moral. Elle avait encouragé chez son père l'indifférence aux devoirs professionnels en lui persuadant que ses bénéfices étaient aussi bien sa propriété personnelle que les terres du frère aîné du docteur étaient celles de ce digne père. Pendant ces longues années, elle avait étouffé, à mesure qu'elle les voyait naître, les velléités qu'avait eues son père de retourner en Angleterre. Elle avait encouragé aussi l'inaction de sa mère, afin de pouvoir être la maîtresse absolue dans la maison. Elle avait favorisé les folies de sa sœur, quoique toujours disposée à en prévenir les suites probables. Enfin, elle avait fait de son mieux, et cela avec un plein succès, pour gâter son frère et le jeter dans le monde oisif, sans profession, sans un sou qui lui appartint en propre. Mais il nous reste à parler des deux membres les plus remarquables de la famille. Le second enfant, Madeleine, avait été une beauté. Nous avons tort de dire « avait été ». Elle n'avait jamais été plus belle qu'à ce moment, quoique, depuis des années, une difformité eût altéré la perfection de sa personne. Il n'est pas nécessaire que nous racontions dans le détail l'histoire de Madeleine Stanhope. Elle était allée avec sa famille en Italie à l'âge de 17 ans et avait promené ses charmes dans les salons de Milan et parmi les villas qui se pressent sur les bords du lac de Comme. Elle s'était rendue fameuse par des aventures où peu s'en fallait qu'elle ne se fût perdue d'honneur. Elle avait brisé le cœur d'une douzaine de cavaliers sans être jamais touchée de leur amour. Le sang avait coulé dans des querelles excitées par la rivalité et grande avait été la satisfaction de l'enchanteresse qui les faisait naître. Le bruit avait couru qu'elle avait assisté, déguisée en page, à l'une de ses rencontres et avait vu tomber son amant. Ainsi qu'il arrive souvent, elle avait épousé le pire de ses prétendants. Qui dira pourquoi l'avait-elle choisi, Paolo Neroni, homme sans naissance et sans fortune, un simple capitaine dans la garde du pape, un étranger qui était arrivé à Milan en aventurier, peut-être en espion, dur, avec un langage mielleux, laid, basané, impudent, menteur. Il est probable qu'à un certain moment, elle ne put faire autrement. Il était donc devenu son époux, et après un séjour prolongé sur les bords du lac, ils étaient partis pour Rome ensemble, malgré les efforts faits par le capitaine Papalin pour amener sa femme à demeurer dans sa famille. 6 mois après, elle arriva chez son père, estropiée et mère, sans avoir donné avis de sa venue, ayant à peine de quoi se vêtir. Son bébé était porté par une pauvre fille de Milan qu'elle avait prise en échange de sa femme de chambre romaine. Celle-ci, dit-elle à ses parents, l'avait accompagnée jusqu'à Milan et avait eu le mal du pays. Évidemment, la signora ne s'était pas souciée de prendre avec elle un témoin de la vie qu'elle avait menée à Rome. Elle était tombée, dit-elle, en gravissant des ruines et s'était brisé le genou. L'accident avait été irrémédiable. Debout, elle perdait 8 pouces de sa hauteur. Quand elle essayait de se déplacer, elle traînait disgracieusement une jambe raide. Elle avait donc résolu, une fois pour toutes, de ne jamais se tenir debout et de ne jamais se mouvoir elle-même. Et bientôt arrivèrent les éclaircissements. On sut qu'elle avait été cruellement maltraitée par Néroni et que c'était à sa violence qu'elle devait son accident. Elle parla peu de son époux, mais de ce peu on put comprendre que l'on ne verrait, que l'on ne saurait plus rien du signor Néroni. On ne se demanda pas si l'on rendrait ses droits d'enfant à la famille à la pauvre beauté mise à mal, si l'on donnerait asile à sa petite fille sous le toit des Stanhope. Les Stanhope ne poussaient pas l'indifférence jusqu'à la dureté. On les recueillit tous deux, on les dorlota, on les adora d'abord, puis ce furent 2 intrus, 2 fléaux. Mais la dame était dans la place, elle y resta, faisant à sa guise, que sa conduite fût ou non déplacée dans la maison d'un ecclésiastique. Madame Néroni, réduite à une sorte d'immobilité dans le monde, n'avait en aucune façon l'intention de renoncer au monde. Sa beauté n'avait subi aucune atteinte, et cette beauté était aussi originale que parfaite. Madeleine séparait en bandeaux son abondante chevelure brune, découvrant ainsi le plus possible son front et ses joues. Son front, quoique assez bas, était blanc et d'une exquise pureté de ligne. Ses yeux, grands et bien fendus, avaient un éclat merveilleux. On ne pouvait les regarder sans éprouver une certaine crainte. Certes, il n'aurait pas engagé un homme ami de la paix et de sa propre tranquillité à tenter une passe d'armes avec de si redoutables adversaires. On y lisait l'intelligence et la passion, mais non l'amour. Ils exprimaient la cruauté, le courage, le désir de la domination, la ruse, le penchant au mal. Il n'en est pas moins vrai que c'était de beaux yeux, embellis encore par de longs cils. Le long regard fixe, impassible, qu'elle dirigeait sur un admirateur, ne l'épouvantait pas moins qu'il ne le fascinait. Son nez, ses dents, son cou, son buste étaient parfaits, plus parfaits peut-être à 28 ans qu'il ne l'avait été à 18. Quoi de plus naturel qu'avec tant de charme, et avec une si cruelle infirmité, elle voulut être vue, mais seulement étendue sur un sofa. Ce n'est pas sans difficulté qu'elle avait pu mener son projet à bonne fin. Elle avait continué à fréquenter les salons de l'aristocratie, et dans ces circonstances, elle se faisait porter de façon à ne pas déranger un pli de sa robe et à ne rien trahir de sa difformité. Elle était toujours accompagnée de sa sœur, d'une femme de chambre et d'un domestique, de 2 même dans les grandes circonstances. Tout ce personnel lui était nécessaire, et malgré sa pauvreté, elle trouvait le moyen de se l'assurer. Tout ce qu'il y avait de plus corrompu dans la jeunesse milanaise fréquentait la Villa Stanhope et se pressait autour de son sofa au grand mécontentement de son père. Parfois il s'irritait et se révoltait, mais Charlotte l'apaisait par quelque habile préparation culinaire, et pour un temps les choses allaient en douceur. Madeleine affectait la richesse dans le mobilier de sa chambre, dans sa toilette, dans tout ce qui touchait sa personne. Mais c'était surtout dans ses cartes de visite que se manifestait cette recherche. On dira qu'elle n'en avait guère besoin. Elle n'était pas en situation de faire des visites, mais elle ne pensait pas ainsi. Ses cartes avaient une large bordure dorée. On y voyait imprimée en 3 lignes la signora Madeleine Wesley Néroni, née Stanhope. Au-dessus du nom était une belle couronne dorée qui avait tout à fait bon air. Comment avait-elle pu se composer un semblable nom? Il serait assez difficile de le dire. Son père avait été à son baptême appelé Wesley, comme d'autres sont appelés Thomas. elle n'avait plus de droit à prendre ce nom que n'honorait la fille d'un monsieur Josiah Jones, s'appelait Mrs. Josiah Smith, s'il épousait un monsieur Smith. La couronne dorée ne lui appartenait pas davantage, peut-être moins encore. Paolo Neroni n'avait pas le moindre titre à se dire le rejeton d'une noble famille italienne. Si sa femme et lui s'étaient rencontrés en Angleterre, Neroni se serait probablement improvisé comte. Mais ils s'étaient rencontrés en Italie, et une telle prétention de sa part aurait été tout simplement ridicule. Néanmoins, une couronne faisait bien. Et si ce devait être pour la pauvre estropiée une consolation que d'en avoir une sur ses cartes, qui eut le courage de la lui reprocher? De son époux, de la famille de celui-ci, elle ne parlait jamais. Mais avec ses soupirants, elle faisait de mystérieuses allusions à sa vie de femme mariée, à son isolement, et montrant sa fille, elle l'appelait le dernier reste du sang des empereurs, rattachant ainsi Néroni à l'antique famille de laquelle était né le plus détestable des Césars. La signora n'était pas sans talent. C'était une épistolière infatigable, prête à traiter toutes sortes de sujets et à correspondre avec tout le monde, sauf avec les personnes d'un sérieux ou d'une moralité gênante. Elle écrivait des poésies, généralement en italien, et des nouvelles, le plus souvent en français. Telle était l'enchanteresse qui venait charmer les cœurs à Barchester. Ethelbert Stanhope ressemblait à quelques égards à sa plus jeune sœur, mais il méritait peut-être un peu plus d'estime qu'elle. Ce qui manquait en lui, c'était cette raison et cette persévérance qui eussent dû amener le fils d'un homme sans fortune à gagner son pain. Tous les efforts que l'on avait faits pour le pousser dans une carrière avaient été stériles, non qu'il fût paresseux, mais il lui répugnait de se livrer à un travail pour lequel il n'avait pas de goût. Il avait fait ses études à Eton pour entrer dans l'église, mais il avait quitté Cambridge avec un trimestre et avait déclaré à son père qu'il voulait étudier en vue du barreau. Il lui sembla qu'une bonne préparation serait de suivre les cours d'une université allemande. Il alla donc à Leipzig. Il y resta 2 ans et en rapporta la connaissance de l'allemand et le goût des beaux-arts. À son retour, pensant toujours au barreau, il loua un logement, s'inscrivit au cours d'un docte Savantas et passa une saison à Londres. Là, il trouva que ses aptitudes étaient pour la vie d'artiste et il résolut de vivre en faisant des tableaux. Dans cette vue, il retourna à Milan et se fit mettre en état d'aller séjourner à Rome. Il aurait pu gagner sa vie comme peintre. Il ne lui manquait pour réussir que l'assiduité. Mais une fois à Rome, ses idées prirent une autre direction. Il fit bientôt un appel de fonds, disant qu'il avait été converti à la religion catholique et qu'il allait partir avec des jésuites pour la Palestine afin de convertir à son tour les juifs. Il alla en Judée, mais ne pouvant convertir les juifs, il se laissa convertir par eux. Il écrivit de nouveau à ses parents pour leur apprendre que Moïse était le seul législateur digne de ce nom, que la venue du véritable Messie était prochaine, que de grandes choses s'accomplissaient en Palestine, et qu'il avait rencontré un membre de la famille Sidonia, homme remarquable, alors en route pour l'Europe occidentale, qu'il avait déterminé à se détourner de l'itinéraire projeté pour faire une visite à la villa Stanhope. Ethelbert exprimait l'espoir que sa mère et ses sœurs prêteraient l'oreille aux prédications de ce prophète merveilleux. Son père, il le savait bien, ne le pouvait pas, puisqu'il tirait son revenu de ses fonctions ecclésiastiques. Mais le prophète, n'ayant rien fait pour le bien-être de son coreligionnaire, Ethelbert fut encore obligé d'avoir recours à la bourse paternelle. Ai-je besoin de le dire? Le père jura qu'il n'enverrait pas d'argent et ne recevrait pas le juif. Mais Charlotte déclara qu'on ne pouvait laisser Ethelbert à Jérusalem sans argent, et la signora Neroni décida qu'elle verrait Sidonia à ses pieds. Le juif vint, mais ne plut pas à la signora. C'était un petit homme malpropre, mais il avait, affirma-t-il, prêté quelque argent au jeune Stanhope, et il refusa positivement de quitter la villa avant d'avoir reçu du docteur une lettre de change sur son banquier de Londres. Ethelbert ne resta pas longtemps juif. Il reparut bientôt à la villa, ne se souciant d'aucune des religions qu'il avait successivement embrassées, et avec le ferme propos de faire sa réputation et sa fortune comme sculpteur. Il apportait avec lui quelques modèles qui dataient de son séjour à Rome. Il promettait assez pour que le docteur se décidât à le pousser dans cette voie, au prix de quelques dépenses. Ethelbert ouvrit un établissement, ou plutôt logea un logement et un atelier à Carrare. Il y gâcha beaucoup de marbre et fit quelques jolies choses. Pendant ces 4 ans, il avait habité tantôt Carrare, tantôt la villa. Mais ses séjours à Carrare devenaient de plus en plus courts. Rien de moins étonnant. Carrare n'est pas pour un Anglais un lieu de résidence bien agréable. Enfin, quand la famille partit pour l'Angleterre, il refusa de rester en arrière malgré son père. Il voulait, disait-il, aller prendre les ordres en Angleterre. Ethelbert avait l'extérieur le plus singulier du monde. Il était certainement un fort joli garçon. Ses yeux étaient ceux de sa sœur Madeleine, mais sans leur expression rusée et cruelle. Ils étaient aussi beaucoup plus clairs et même d'un bleu si clair et si transparent qu'ils auraient suffi à eux seuls à rendre son visage remarquable. Ses cheveux blonds étaient longs et soyeux. Ils tombaient presque sur son habit. Il avait une barbe de patriarche qu'il ne rafraîchissait que rarement. Elle était d'ailleurs douce, bien soignée et lui allait fort bien. Il avait le teint clair et rose. Il était petit et mince, mais bien fait, et sa voix avait un timbre très agréable. Dans ses manières et dans sa façon de s'habiller, il n'était pas moins original. Il ne connaissait pas la réserve anglaise. Il abordait les étrangers, hommes et femmes, sans se faire présenter, et savait se rendre agréable. Quant à ses vêtements, ils étaient toujours d'une coupe et d'une couleur particulière et sans cesse variés. Il passait son temps à faire la cour aux dames, sans aucun scrupule de conscience, comme si c'eût été la chose la plus naturelle du monde. Pourtant, ses principes lui interdisaient d'avoir des attentions pour une jeune fille devant un homme qui, pensait-il, pourrait faire un bon mari pour elle. Mais c'était là le seul motif qui le retint de faire les déclarations d'amour les plus explicites à une jeune fille qu'il trouvait gentille. Bertie Stanhope, comme on l'appelle, était populaire auprès des deux sexes, auprès des Italiens comme auprès des Anglais. Le cercle de ses connaissances était très large et comprenait toutes sortes de gens. Il n'avait ni respect pour le rang, ni éloignement pour ceux qui étaient au-dessous de lui. Il avait vécu en termes familiers avec des pairs d'Angleterre, des boutiquiers allemands et des prêtres romains. Il était au-dessus, ou, pour mieux dire, au-dessous de tous les préjugés. Il n'avait pas de principe, pas d'égard pour les autres, pas de respect de lui-même. Il ne lui répugnait pas d'être le frelon dans la ruche, si seulement il pouvait en tirer quelque miel. Telle était la famille Stanhope qui, à ce moment, vint se joindre tout à coup au cercle ecclésiastique du parvis de Barchester. Connue de nom comme elle l'était dans la ville, elle devait être reçue à bras ouverts. Le docteur était un des dignitaires de la cathédrale, l'un des recteurs de la ville, l'un des piliers de la foi. Et de plus, les deux grands ennemis, les Proudie et les Grantley, comptait sur lui comme sur un allié assuré. Il était le frère d'un père et sa femme était la sœur d'un autre père. Les deux lords avaient des tendances politiques qui les rapprochaient du nouvel évêque. De là, chez M. Slope, l'espoir d'enrôler le docteur Stanhope dans son parti avant que ses ennemis pussent manœuvrer pour l'attirer dans le leur. D'autre part, le vieux doyen, bien des années auparavant, avait aidé activement le docteur Stanhope dans sa carrière et les docteurs Stanhope et Grantley avaient passé ensemble une joyeuse jeunesse à Oxford. En conséquence, le docteur Grantley ne doutait pas que le nouveau venu ne vînt se ranger sous sa bannière. Mais ni les uns ni les autres ne pouvaient soupçonner de quels éléments était alors composée la famille Stanhope.